Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans L'Autre Football, le podcast du site Lucarne Opposée, l'émission radiophonique des Globetrotters du foot. Alors comme d'habitude, avant d'entamer les hostilités, je vous rappelle, chères auditrices et chers auditeurs, que L'Autre Football est désormais disponible sur iTunes, sur YouTube, sur Mixcloud et sur TuneIn, quatre plateformes, quatre plateformes donc de podcasts et de contenu radio sur lesquels vous pouvez écouter ce dernier podcast que vous écoutez actuellement, mais aussi vous les télécharger et aussi bien sûr les anciens qui sont disponibles. Vous êtes bien entendu invités à nous suivre sur Twitter et à nous y interpeller. On sera toujours ravis de répondre à vos questions et à vos suggestions. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de partager les articles, les podcasts bien sûr, mais aussi les articles de Lucarne Opposée, hein, donc de toute notre rédaction. Et j'en profite, puisqu'il est sorti il n'y a pas longtemps, je vous invite à courir acheter sur le site, encore une fois, Lucarne Opposée, notre premier magazine papier ou digital. Voilà, il y a de version papier, version digitale, des possibilités d'abonnement. Voilà, toutes les solutions sont expliquées sur notre site. Voilà, on vous propose un contenu, un gros contenu, hein, 86 pages. Donc on est parti sur du trimestriel. On espère que ça vous plaira. On vous invite à y aller. Voilà, c'est un petit projet qui pour nous a enfin vu le jour, et c'est enfin un gros projet qui a enfin vu le jour, et c'est un gros moment pour nous. Donc voilà, on courait acheter notre numéro 1 de Lucarne Opposée magazine. Alors L'Autre Football numéro 16, qui va nous emmener enfin manger des tacos al pastor, des tortas ahogadas, descendre quelques micheladas aussi en écoutant un peu de banda, et puis qui va nous faire mandar los gringos a la verga, carnales. Et, enfin bon, pardon, je m'emporte un peu là, mais voilà, j'adore ce championnat, j'adore ce pays, le Mexique.
Ah ouais, ouais, ouais.
Vous aurez compris. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais je suis passionné de ce pays dans lequel j'ai un peu vécu, et on va en parler avec Diego Tonatu, qui fait son premier passage avec nous. ¿Qué onda, güey?
¿Qué onda? Muy bien, ¿y tú? ¿Ça va?
Bien, pues bien.
Ça roule?
Super bien. Pour moi, ça va très bien. Enfin, il pleut aujourd'hui, là, c'est les pluies tropicales. Dans le dernier podcast, je disais qu'il faisait une chaleur assourdissante. Là, en ce moment, c'est les grosses pluies, mais de la chaleur aussi du côté du Brésil, donc pour ma part. Et enfin, on terminera avec la Liga Águila de Colombie de Pierre Gerbeau, qui ne quitte plus les podcasts, décidément. Hein, t'es toujours avec nous, mon Pedro. Comme au Mexique, le championnat régulier, la phase régulière est terminée, et on connaît les participants au play-off, au championnat, comment dire, au tournoi à élimination.
Quart de finale.
Voilà, qui serait de fois que, contrairement au Mexique, mais on va y venir, sont des quarts de finale. ¿Qué onda, Pedro?
Bah, bien, bien. Et tout?
Bien, bien. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire ¿qué onda? Parce que j'ai appris l'espagnol du côté de Guadalajara au Mexique. Mais ça se dit ¿qué onda en colombien?
On dit plutôt ¿qué tal?
Ouais, ¿qué tal? Bon.
Ouais, plutôt ¿qué tal? Après, ¿qué onda? On comprendra et on le dira, il n'y aura pas de problème, t'inquiète pas.
D'accord, d'accord. Et bah, c'est parti, donc, direction la Liga MX, comme promis, dont je vais rappeler rapidement le fonctionnement. On commence, si vous êtes un peu habitué au championnat latino, vous ne serez pas énormément surpris. Donc, on a un championnat à 18 équipes. Séparé en deux phases, l'Abertura et la Clausura. Là, actuellement, c'est l'Abertura qui est en cours. Ces équipes se rencontrent une fois chacune lors de chaque phase. Et ce sont donc les huit premiers qui sont qualifiés à des playoffs qui s'appellent donc la Liga.
La Liga, la petite Liga.
Exactement, la petite ligue. Et pour en toucher un mot, le système de descente se calcule avec un quotient de points réparti sur les trois saisons, c'est ça, hein, Diego?
Oui, c'est ça. En fait, c'est assez particulier. Je ne sais pas si c'est unique au monde. En tout cas, je ne connais pas vraiment de championnat qui fait ça. C'est ça. C'est sur les six derniers tournois, donc les trois dernières années, puisqu'il y a deux tournois par année. Et c'est une moyenne de points sur ces tournois-là. Alors le promu, lui, évidemment, on ne peut pas faire cette moyenne. Donc lui, on calcule, on ne peut pas faire la moyenne sur les six derniers tournois. Donc on va prendre la moyenne de points sur les matchs disputés. Donc évidemment, le coefficient du promu, en l'occurrence, c'est les Lobos de Puebla, évolue très fortement.
Très variable, ouais, voilà. Très, selon très variable. Qu'il gagne, il peut très très vite monter comme très très vite descendre. Et c'est parfois ça, assez difficile de se sauver.
Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a peu d'équipes qui jouent le maintien finalement. On en compte rarement plus de 4.
Oui, donc, il y a souvent 3 à 4 par saison, quoi.
Voilà, il y a souvent le promu et trois équipes qui sont régulièrement placées dans les mauvaises
on
places.
On ne peut pas les nommer. On a du Querétaro, du Veracruz, du Puebla, il y a pas mal de temps. Chivas, à un moment, les Chivas.
Ouais, il y a trois ans, ils ont failli descendre. Hein. Ils ont déjà été virtuellement à l'avant-dernière journée éventuel descendant. Et également l'Atlas. Hein, le rival de la ville de Guadalajara.
Le Stade Rennais du Mexique. Il y a même les couleurs, tout.
Ouais, il y a les couleurs, voilà, il y a juste pas le stade, parce que quand même le stade de la classe, c'est quand même quelque chose.
Hein. C'est le Jalisco, les Jalisco.
Voilà, surtout pour un club qui a aussi peu de succès.
Ouais, voilà, donc voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, merci de l'avoir expliqué là, ce système un peu de caution. Alors, pour la descente.
Et juste un point encore sur la descente. Pourquoi, enfin, beaucoup se plaignent de ce système. Une des raisons principales. C'est parce que un gros peut se permettre de faire un tournoi absolument catastrophique. En l'occurrence, cette saison, on peut prendre l'exemple des Pumas, qui ont terminé dernier de l'Apertura avec seulement 13 points, vraiment un tournoi calamiteux, et ils sont absolument pas concernés par la descente à la faveur des tournois précédents. Donc voilà, les gros sont souvent protégés, ça leur permet de faire, ça leur autorise une phase calamiteuse sans avoir à se préoccuper de ça et à pouvoir se rattraper par la suite.
Vas-y Pierre.
C'est le même système en Colombie, exactement le même système, et ça soulève exactement comme tu viens de l'expliquer, ça soulève des contestations, et effectivement ça a la même vocation de protéger les gros, comme Junior par exemple, qui avait fait un premier semestre dégueulasse.
Catastrophique, voilà. On se souvient, on avait parlé dans les podcasts dont on avait déjà parlé de la Liga Águila, et c'était pas qualifié pour le championnat, pour les playoffs. Alors, pour vous les donner, les 8 qualifiés pour cette Ligue IA, dans l'ordre de leur classement, nous avons aux deux premières places les deux gigantesques de Monterrey, premier donc les Rayados de Monterrey, et second les fameux Tigres de Dédé Gignac. Arrive ensuite en troisième position l'América, Los Águilas, l'América de México, qui est l'un des géants, hein, des très grands clubs du pays. Ensuite arrivent les Monarcas de Morelia, qui reviennent d'une période un peu difficile. On parlait des équipes qui sont régulièrement inquiétées par la descente, je cherchais l'expression. Les Monarcas en sont, mais cette fois ils ont fait une très bonne campagne. Ça fait un petit moment qu'on les avait pas vus à ce stade.
C'est le deuxième tournoi d'affilée où ils se qualifient.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais. En fait, ce qui était assez intéressant, c'était assez marrant. Le dernier tournoi, donc le Clausura, qui s'est terminé au mois de mai, Morelia jusqu'à la dernière seconde se bat pour le maintien, mais se bat également pour la qualification en Liguilla, parce qu'ils terminent finalement 8e, donc qualifiés pour la Liguilla, et en même temps ils se sauvent parce que ils avaient fait tellement des tournois catastrophiques avant que le club était dans cette position de potentiel descendant et potentiel participant à la Liguilla, ce qui aurait été du jamais vu.
C'est du jamais vu ça, oui, je sais pas, c'est une bonne
question. Pour nous en tout cas, c'était du jamais vu.
D'accord. Cinquième donc, les Diables Rouges, Los Diablos Rojos de Toluca, une petite ville, c'est pas une très grosse ville, Toluca, donc au nord de la capitale.
Ouais, 2 millions d'habitants, ça va.
Oui, bon, c'est 2 millions, Toluca ? Ah oui, je confonds avec Pachuca, pardon.
Oui, voilà.
C'est Pachuca qui est une toute petite ville. Oui, Toluca, pardon, est une assez grosse ville. Ensuite, en sixième position, enfin, parce que ça fait longtemps quand même, et il paraît qu'ils sont on espère qu'ils sont un petit peu mieux, parce que eux aussi, on pourrait les qualifier de Stade Rennais mexicains. Ils n'ont pas les couleurs, mais eux, ils ont vraiment l'esprit. C'est les cimentiers du Cruz Azul de la capitale des Efes, qui sont les spécialistes pour Cruz Azulear. On en avait déjà parlé de ce verbe, c'est-à-dire rater un match à la toute dernière seconde. L'exemple le plus criant étant la finale de 2013 contre l'América, où ils avaient leur match en main jusqu'aux dernières secondes, qui a finalement tout capoté grâce à une égalisation du gardien de l'América, Moisés Muñoz. Un article de génie a été écrit à ce sujet sur Lucarne Opposée. Je ne dirai pas qui en est l'auteur. Bref, et en septième position, nous avons León, le club de León, ma foi, de la ville de León.
Ville du centre, pas gros club, mais un palmarès quand même.
Exactement, qui avait très très bien marché dès qu'ils étaient revenus à la première division il y a quelques années. Ouais. León, où a joué le premier français de l'histoire de la Liga MX, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Tu nous rappelles qui c'est déjà ?
Alors, t'es sûr que c'est lui? C'est le franco-camerounais là? C'est
Amara
pas lui?
Simba.
Amara Simba. Alors moi je pensais à Oman Biyik, c'est pour ça.
Mais parce
Qui a joué à la
qu'Amal
NBA.
Biyik, pour moi, est que camerounais.
Oui, d'accord, donc il est que camerounais en effet. En fait,
Voilà.
à chaque fois les Mexicains me le rappellent comme étant un Français en fait.
Parce que, bah oui, bah si, là, il a joué en
Et
France,
voilà,
mais non, non,
c'est vrai.
oui.
C'est vrai que c'est Sim.
Comme Kalusha, Kalusha
On est...
aussi, qui est un autre joueur africain, voilà, tu les as cités, on peut le dire rapidement, Oman Biyik, puis Oman Biyik et Kalusha, qui sont deux très grands joueurs camerounais. Kalusha est-il camerounais? C'est une bonne question. À avoir joué donc dans les années 90 à l'América de México et à avoir marqué le club. Et enfin, huitième qualifié, nous avons l'Atlas de Guadalajara, qu'on n'attendait pas forcément là au vu de leur début d'Apertura, mais qui ont fait un retour de folie et qui ont réussi à se qualifier sur le fil, même on peut le dire.
Ouais.
Alors, je sais que toi, ça va te faire mal parce que y en a un des deux qui est important pour toi, qui est plus qu'important pour toi, tu en es supporter. Mais avant de parler de la Liga, parlons des absents, deux gros notamment. Il y a bien sûr les Chivas de Mathieu Almeida, qui sont tenants du titre, qui avaient brillamment gagné la Clausura. Je dis brillamment parce que le
Oui,
système
on
de
peut le dire.
Liga après fait que ce n'est parfois pas le plus le, la meilleure équipe qui gagne, ou parfois pas l'équipe qui joue le mieux. Mais voilà, c'est normal, hein, c'est les
C'est surtout
championnats à élimination comme ça.
l'équipe qui aura su gérer le mieux sa forme sur le tournoi global et qui sera capable de tout donner sur la fin, quoi. C'est ça qui est
Exactement.
assez intéressant, parce que finalement, c'est pas en gagnant 8-0 contre les derniers que tu vas réussir à décrocher le titre, quoi.
Et il y a d'ailleurs, on peut en parler, cette malédiction. On parle souvent de la malédiction qui touche le
Et le
super
super leader.
leader, le super leader de la phase régulière,
Il me semble que
qui
le dernier
généralement
super leader.
se fait généralement éliminer directement dès les huitièmes de finale.
Ouais,
Quart
alors
de
dès
finale,
l'écart,
pardon.
hein. Ouais. Mais il me semble que le dernier super leader à avoir gagné, c'est l'América en 2014, si je me
C'est un
trompe
fait
pas.
assez rare. Et
Oui,
donc,
voilà, ça arrive une fois sur.
voilà, donc les Chivas donc qui n'ont pas qui ne sont non pas ne sont pas parvenus à se qualifier tout en étant tenants du titre, et donc un autre qui n'est pas qualifié, donc ça arrive parfois, ce sont les légendaires Pumas de l'UNAM, l'historique université de México DF, la capitale. Mais fait plutôt rare, si ce n'est jamais vécu, je ne sais pas, tu vas nous le dire, qui voilà, les Pumas sont terminés, comme tu l'as dit un peu avant, bon dernier
Ouais,
de cette Apertura.
ça
Alors,
c'était déjà prévu, hein. C'était déjà produit, pardon.
déjà passé. Alors,
Ouais.
qu'est-ce qui s'est passé pour ces deux-là, Diego?
Bon, on va parler des Chivas parce que c'est à mon avis plus simple. Déjà, je pense que l'équipe était en sur-régime l'an dernier. Quand tu regardes l'équipe, c'est assez incroyable de se dire que cette équipe a réussi à tenir la cadence jusqu'à la fin. Les Chivas n'avaient pas terminé hyper bien placés au classement, hein. Ils avaient terminé, il me semble, 3 ou 4e. Loin derrière Monterrey et les Tigresses. La victoire était vraiment éclatante, hein, tu l'as dit, c'était vraiment super, super si c'était passé, notamment parce que bah, les Chivas Guadalajara ont cette particularité de jouer avec uniquement des joueurs mexicains. Donc face aux Tigresses de l'université de Monterrey, c'était un peu, les gros titres disaient souvent cartera, donc portefeuille, contre cantera, centre de formation. Et c'était le centre de formation qui avait gagné sur le portefeuille. Parce que voilà, les Tigresses, c'est le plus gros salaire Gignac, c'est Eduardo Vargas, c'est des internationaux argentins, à l'époque Guido Pizarro, qui a marqué hier soir avec Séville, et le gardien Nahuel Guzmán. Donc, souvent, ce qui se passe avec le champion, c'est quand même un championnat où il y a très peu de trêves, hein. Ça se finit début juin, généralement, la finale. Et le championnat commence mi-fin juillet, quoi. Là, le
Ouais,
fin
c'est ça, il y
juillet.
a un petit mois de trêve.
Oui, et en fait, un tout petit mois de break. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que là, le Mexique devait jouer la Gold Cup qui s'est déroulée aux États-Unis. Donc, c'est tous les 2 ans. Et en fait, tous les 2 ans, le Mexique envoie une équipe alternative. Et il s'avère que dans l'équipe alternative, il y a énormément de joueurs des Chivas Guadalajara. Donc, les Chivas ont repris le championnat, vu que c'est super bien organisé à chaque fois. Les Chivas ont repris le championnat sans les internationaux qui étaient partis disputer la Gold Cup. Je pense à Pizarro, je pense à Alan Pulido, donc la plupart de l'attaque et la défense centrale notamment, avec Jair Pereira et Alanis, les deux centraux. Donc voilà, après, c'est vraiment un tournoi qui a super mal débuté. Ils ont été longtemps lanterne rouge et c'est que sur la fin là qu'ils ont réussi à à remonter un petit peu pour finalement terminer 13e. Mais dès mi-septembre, on avait compris qu'ils n'en seraient pas. Pour parler des Pumas, c'est quand même un club qui est hyper mal géré. Alors, il faut le rappeler, c'est un club de l'Université autonome de Mexico. C'est un club qui n'est pas du tout géré comme la plupart des équipes, la plupart des clubs au pays. Je pense à Monterrey, au Tigres, à Santos même, ou à l'América. C'est géré un peu à l'ancienne, c'est un peu un football, le football
Santos,
à papa. Quoi.
Santos, je précise, pour ceux qui parfois écoutent nos propos sur nos contenus sur le football brésilien, il s'agit ici du Santos Laguna, le club del Torreón.
Voilà, la ville de Torreón, qui est une ville industrielle, et dont le stade s'est longtemps appelé Stade Corona, comme la marque de bière. Donc le club des Pumas n'est absolument pas géré de la même manière, et ils ont un peu manqué ce virage, on va dire, parce qu'en ce moment, au Mexique, il y a énormément d'argent, vraiment énormément d'argent. Ils arrivent à payer des joueurs à des sommes astronomiques et des salaires astronomiques.
C'est aujourd'hui, je pense, le championnat le plus puissant du continent.
Oui, sans aucun
plus,
doute.
Et, plus que le Brésil.
Oui.
L'Argentin, qui a des gros problèmes de dette.
Oui, je pense que le Brésilien doit être juste derrière. Mais voilà, en tout cas, les Pumas n'ont absolument pas réussi à prendre ce virage-là. Il y a ce côté un peu très institutionnel au Pumas. C'est un club qui aime bien rappeler son passé parce que c'est le club de l'université. Il y a la bibliothèque classée au patrimoine mondial. Il y a
tout ce côté intellectuel. C'est le club des intellectuels. Je rappelle juste que quand je dis l'historique université de Mexico, c'est que c'est juste la plus grosse université d'Amérique latine.
D'Amérique latine, Et malgré les facs privées qui fleurissent à Mexico et à Monterrey, restent extrêmement renommées pour une université publique. Mais ce n'est pas uniquement la ville des intellectuels. Hein. Parmi les supporters, on trouve également...
À Mexico,
ce n'est pas aussi sectorisé que ça pourrait être dans d'autres...
Oui, mais non, mais ça, je peux te dire, je le dis rapidement, parce qu'il se trouve que les intellectuels mexicains aiment souvent les Pumas parce que c'est le club d'université, comme tu l'as dit.
Oui.
Nam. Mais c'est vrai que c'est comme qu'on dit tel club au Brésil, en Argentine, tel club, c'est le club des riches. À São Paulo, pour avoir vécu à São Paulo, le São Paulo FC est censé être le club des riches parce qu'il est basé à Morumbi et que à sa création, c'était en effet un club réservé pour les riches, un peu comme le Racing, enfin les Racing, etc. Moi je suis déjà allé au Morumbi. C'est pas que des gros riches qui sont dans les tribunes, loin de là.
Bah c'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment assez éparse. Donc oui, il y a les intellectuels, mais ils vont pas se balader avec les livres sous le bras au stade, quoi. Et il y a même un groupe de supporters qui est assez chaud, et il me semble pas que ça fasse partie de l'élite intellectuelle au stade olympique universitaire. Voilà.
Donc pour toi, cette non-classification, elle est vraiment due à... Elle est due à quoi?
Je pense que les Pumas ont vraiment du mal. Donc récemment, ils ont disputé une finale en décembre 2015, mais c'était un peu un mirage. Les Pumas, ils disputent rarement la Liga en ce moment. Hein. C'est vraiment une sur les cinq ou six dernières. Ils n'arrivent pas à sortir des joueurs du centre de formation, alors que durant longtemps, c'était un club réputé pour sortir des jeunes. On pense notamment à Hugo Sanchez à la fin des années 80. Dernièrement, il y a eu Héctor Moreno ou Pablo Barrera, dont Eric Abidal se souvient très bien en 2010. Donc déjà il y a ça, et je dis vraiment, c'est aussi un club qui est mal géré. Je pense que c'est pas le président qui s'appelle Rodrigo Álvarez de Parga, il est pas vraiment concentré sur la réussite de ce club. Il y avait un entraîneur qui était assez intéressant, c'était Francisco Palencia.
La classe indienne. Ouais. L'un des seuls joueurs est ouvertement
et
entraîneur maintenant, du coup. Mais voilà, un monument des Pumas qui a remporté d'ailleurs le championnat, le dernier championnat en date des Pumas en 2011, si je ne m'abuse.
Il me semble pas qu'il était là à ce moment, il était plus là à ce moment-là.
J'habitais au Mexique à cette époque-là.
Je
me semble quasi persuadé qu'il était encore là.
Mais je te crois, et il me semble qu'il a aussi gagné le dernier de Cruz Azul avec Cruz Azul.
C'est vous dire.
Pour te dire.
Ça fait longtemps.
Je pense que c'est un entraîneur qui avait des bonnes idées, mais il a vraiment une équipe. Mais le jeu des Pumas depuis un an, c'était balancer long ballon sur Nicolas Castillo, l'attaquant chilien, et voir ce qui se passait, quoi. c'était le mec représentait les deux tiers des buts des Pumas et c'était ça la stratégie. Ils ont changé de coach, ça a été pire. En ce moment, c'est David Patiño qui est le coach. Voilà, moi, sachant que là, la Liguilla approchait, je me suis davantage consacré aux matchs des équipes qui pouvaient potentiellement se qualifier à la Liguilla que les matchs des Pumas, qui est en pleine remise en question idéologique.
Je me souviens du Classico qu'on était allé couvrir sur le terrain avec Nicolas Cougou, le rédacteur en chef de Lucarne Opposée, et Pierre-Marie Gosselin, qui s'occupe de l'Afrique. Vous le savez si vous écoutez nos podcasts sur le continent africain. Nous étions allons donc couvrir le Classico l'an passé à l'Azteca, donc entre l'América et les Pumas. Et c'était donc Palencia à l'époque l'entraîneur. Il me semble pas que Nicolas Castillo y était déjà.
Il est arrivé après.
Ouais, c'est ça, il est arrivé après. Mais à ce moment-là, ça jouait quand même pas mal. Moi, c'est toujours plus impressionnant quand t'es au stade. Alors, quand t'es au bord du terrain, c'est encore plus fou, tu vois encore plus l'intensité, etc. Et j'avais trouvé ça déjà très technique. Hein. C'était quand même.
Oui, non, mais rien n'est perdu hein, pour Palencia. Hein. On va le revoir, ça, c'est sûr. Quand t'arrives dans un environnement qui est pas forcément le bon, t'as forcément tu vas pas nécessairement réussir à chaque fois. Ça reste un entraîneur jeune. Voilà.
Il est encore jeune. C'est vrai qu'il a moins de 40 ans, je crois.
Peut-être un peu plus. Ouais. Il dispute quand même le mondial 98. Il doit avoir 26 ans. Voilà. Tu as parlé de ces deux
gros. Et bah figure-toi, tu me fais une autre de touche parce que j'allais y venir en disant voilà, on a cité un peu les deux monuments qui ne sont pas qualifiés, mais il y a d'autres équipes, notamment des équipes qu'on a l'habitude de voir en Ligue 1 ces derniers temps. Je sais pas si c'est de cela dont tu allais parler. Moi, j'allais par exemple parler des Pachuca, des toutes sauces des Pachuca qui sont une très belle écurie. L'équipe actuellement, si ça peut vous parler, chers auditeurs et auditrices, il y a Keisuke Honda là-bas. Voilà, c'est un peu le nom connu, mais c'est surtout un super centre de formation.
Exact. Là, on parlait du fait que le centre de formation des Pumas ne fonctionnait plus du tout. Au contraire, le centre de formation de Pachuca, qui est un club historique, c'est le club le plus ancien, c'est un des clubs avec le plus de trophées, mais c'est un club d'une petite ville voilà, de province à 2-3 heures de Mexico. Voilà,
pour ceux qui connaissent la série Club de Cuervos de Netflix, le Pachuca est censé être le grand rival du Club de Cuervos. Et ce qui est drôle, c'est que personnellement, je ne sais pas si c'est tout à fait ça. Il me semble que je l'avais lu quand même que en fait le club des Cuervos de comment s'appelle la ville des Cuervos déjà?
Nuevo Toledo
est largement inspiré du club de Pachuca, petit club de petite ville monté comme ça un peu familialement avec des grosses valeurs normalement à la base, qu'on parle du papa Salva Iglesias senior, même si on a bon, pris des valeurs bref. Pour ceux qui ont vu la saison 2, mais on va pas spoiler. Donc oui, pardon, Pachuca, je te laisse continuer, mais c'était voilà pour le petit clin d'œil avec Netflix, pour ceux qui ont vu, voilà, Pachuca, on peut faire la corrélation, c'est ce genre d'équipe.
Oui, on peut faire cette corrélation. Tu as parlé donc de Keisuke Honda, c'est vraiment dommage de résumer, on va dire, bon, c'est pas ce que tu as fait, hein, mais de parler que de ce joueur, en sachant qu'il est même pas. Enfin, sur la fin, oui, il était titulaire, mais il a mis du temps à s'imposer. C'est surtout le centre de formation le plus important à l'heure actuelle. On pense notamment à Irving Lozano, là, qui casse la baraque, qui est meilleur buteur du championnat hollandais, et dont le club formateur est Pachuca. Et il y a d'autres joueurs du championnat et de la sélection nationale qui sont issus de Pachuca. Donc, grosse déception pour moi, Pachuca. Autre déception, Tijuana qui a recruté en Argentine hein, cet été. Il y a Gustavo Bou qui était venu notamment pour...
Du Racing.
Du Racing, exact. Donc lui, il marche plutôt bien. Mais voilà, ça a été plutôt une déception. Ils ont terminé 11e. Donc voilà, à 5 points à peu près de la Liguilla, mais ça fait depuis un petit mois quand même qu'on sait que Tijuana va rien faire.
Est-ce qu'ils n'ont pas un peu payé le départ, ou plutôt le retour de Miguel Herrera à l'América, qui donc entraînait Tijuana jusqu'alors et faisait des très bonnes choses avec Tijuana?
Bah forcément, je veux dire, c'était Miguel Herrera donnait du caractère à ce club. Miguel Herrera, bon, c'est un l'ancien sélectionneur de la sélection, hein, on le rappelle, en 2014, c'est un personnage qui clive énormément. Mais quoi qu'on en dise, c'est quand même un coach qui fait bien jouer ses équipes et qui arrive à mettre de l'ordre partout où il passe. Voilà, si les Pumas, on parlait des Pumas tout à l'heure, si les Pumas ont besoin de quelqu'un, c'est de quelqu'un qui sache mettre de l'ordre un petit peu. C'est ce qu'avait fait Miguel Herrera à Tijuana. Voilà, ça n'a pas marché ensuite.
Pour ceux qui ne visualisent pas Miguel Herrera, sachez que vous l'avez presque obligatoirement vu, le même, un même internet qui le concerne, un gif, je ne sais pas si on dit gif, je ne me souviens jamais, où en fait c'est sa célébration, au moment d'ailleurs de la finale de 2013 dont on a parlé entre Cruz Azul et l'América, où il célèbre le but de Moy Munoz d'une manière complètement hystérique et le même le fait se transformer en Super Saiyan comme dans Dragon Ball Z.
Exact.
Un drôle d'entraîneur avec un très fort caractère. Et
pour le meilleur et pour le pire, hein, parce qu'il est très grossier, oui, très peu. Enfin, parfois, ça, là, c'est vraiment le beauf, quoi. Mais voilà, faut avouer que le mec, dès qu'il passe quelque part, et là, bah, on va en reparler tout à l'heure dans les satisfactions, parce qu'on a parlé des poids lourds. L'América en fait partie, même si là, il s'essouffle un peu. Mais l'América a retrouvé une certaine stabilité grâce à lui.
Tout à fait. El Naco Herrera, les Naco, sans R, donc, qui sont des beaufs. Pedro, mon petit Pedro de Colombie, tu as une question
pour Diego sur Tijuana. Tijuana, comme un coach, ils ont fait venir Coudet, l'Argentin qui était à Rosario Central.
Rosario, ouais.
Et pourquoi ça n'a pas marché pour lui? Pourquoi ça a merdé?
Alors, je ne pourrais pas te dire exactement ce qui s'est passé parce que je n'ai pas vraiment les infos. Et Tijuana, c'est quand même un club que je suis beaucoup moins que d'autres. Ça reste... C'est un grand pays, donc Tijuana, ça reste le nord. Il y a ce côté un peu, ils sont un peu dans leur bulle un peu, hein, les clubs du nord.
Ils sont en MLS ? Non, quand même pas. Ils sont pas encore en MLS.
non, ils ont pas intérêt à y aller. Enfin bon, ça c'est une petite pique à la MLS. Mais ça reste le nord, quoi. Et c'est une mentalité différente. Le stade, c'est différent. C'est pas vraiment l'Amérique latine, Tijuana. Peut-être que culturellement, ça a pas collé. Peut-être qu'avec le club qui est géré par une entreprise de paris sportifs, de casino, peut-être que ça n'a pas du tout collé.
Sur Tijuana, il pourrait y avoir une série Netflix aussi, honnêtement, je pense.
Il y a un documentaire qui a été réalisé. Un documentaire parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un club assez jeune qui est monté en 2011, il me semble, pour remporter un tournoi en décembre 2012. Donc, c'était assez... assez intéressant de voir l'ascension. C'est quand même un club assez populaire, finalement, qui a gagné très vite en popularité à Tijuana. Une ville qui est très, très ouverte sur les États-Unis, évidemment, puisqu'elle est à la frontière en face de San Diego. C'est une ville qui regarde énormément le baseball, le basket, surtout le baseball. Et donc, le foot a réussi à se faire une place parce que c'était quand même le désert là-haut. C'est le cas de le dire, hein, parce que c'est réellement le désert, mais c'était aussi le désert au niveau football.
Oui, il y a longtemps, il y a eu les Indios de Ciudad Juárez.
Juárez qui revient bien en deuxième division.
Oui, tout à fait. Oui. Je vais un peu te presser. Je sais qu'on parlait de Tijuana, etc. Mais on va avancer parce que ma foi, il faut avancer. Parlons ma foi de ces 8 qualifiés dont je vais donner les quarts de finale. Donc en fait, pour rapidement expliquer, la sélection des quarts de finale se fait donc le premier du classement est opposé au huitième, le second au septième, le troisième au sixième pardon, et le quatrième au cinquième. Voilà. Ce qui fait que les Rayados de Monterrey seront opposés à l'Atlas, que les Tigres seront opposés à León, que l'América Mexico sera opposé à Cruz Azul dans un derby Chilango. Chilango est un surnom
classico
pour les habitants de... Le Classico
Joven.
Le Classico Joven, tout à fait. Et les Monarcas de Morelia seront opposés à Toluca. On va peut-être pas les faire.
On peut faire rapidement, si tu veux, les poids lourds, parce qu'il y a finalement...
On va pas forcément les faire les uns après les autres, mais est-ce que tu peux dégager quand même des poids lourds de ces quarts de finale, des équipes qui ont un peu le chemin un peu plus
tracé
facile
vers les...
Ouais, voilà.
Bah, déjà, les poids lourds, c'est assez facile de les déterminer. Les trois premiers, Monterrey, 37 points, Tigres, 32, América, 30. Juste derrière, donc, il y a très vite Morelia et Toluca qui arrivent, mais ça, ce sont vraiment les trois poids lourds. Ils sont qualifiés presque systématiquement à toutes les Ligue 1 depuis
quelques années. Ils marchent sur le championnat. Oui. S'ils ne le gagnent pas, ils sont forcément quart de finaliste, demi-finaliste. Ouais.
Donc, si tu veux, on passe assez vite parce que finalement, c'est à peu près les mêmes points forts à chaque fois. Monterrey, qui est... Vraiment une super équipe qui marche super, de manière super offensive. C'est des attaques super, extrêmement directes, extrêmement placées. Il y a très peu de possession et ça écrase tout sur son passage. Seul problème de Monterrey depuis au moins 2 ou 3 ans, ça fait des super championnats. Ça finit très souvent leader et ça s'écrase dès que la Liguilla commence. Très souvent parce qu'ils ne savent pas encore correctement arriver en forme, soit fin novembre, soit début mai pour la Liga. Parce que, au contraire des Tigresses, les Tigresses, ils sont rarement leaders et eux, c'est vraiment au dernier moment qu'ils arrivent en forme. Gignac, pour le moment, je fais un petit focus sur lui. L'an dernier, il avait mis peut-être 4 buts uniquement sur la phase régulière de du Clausura. Il a dû mettre 6 ou 8 buts en Liga. Et là, il a mis uniquement 4 buts. Il me semble qu'il est 28e buteur du championnat. Gignac, hein. Meilleur salaire, etc. 28e au classement des buteurs, dont 2 pénaltys, il me semble. Mais tu peux être assuré que le mec, c'est parce qu'avant tout, il sait qu'il y a une Liga à jouer et qu'il peut tout casser. Et
l'Américain, jusqu'à maintenant, en effet, Dédé, il a toujours fait péter le ketchup dans la Liga, quoi. Et ce qui est arrivé assez rigolo, c'est que dès le départ, comme tu le dis, attendu au tournant, les médias l'ont pas loupé. Quand il a commencé à fléchir, on a commencé à parler, surtout des anciens joueurs. Je me demande si Hugo Sanchez d'ailleurs ne l'avait pas critiqué quel salaire pour un rendement si faible, etc. Et systématiquement, il leur avait répondu avec ses pieds, avec son talent dans la Liga, en marquant but sur but et en étant décisif à chaque fois. Et j'ai envie de dire que plus les années passent, plus tout le monde lui laisse faire son championnat un petit peu moisi et attendre de le voir en Liga, parce que voilà, il l'a fait une fois, il l'a fait deux fois, maintenant on sait que on va peut-être pas trop le critiquer trop vite, quoi.
Oui, non, mais c'est la force de Gignac, c'est d'avoir été extrêmement humble en arrivant au Mexique. Il a bien compris que c'était pas le championnat qui devait s'adapter à lui, mais c'était bien lui qui devait s'adapter au Mexique, ça il l'a fait sans problème. Et oui, comme tu le dis là, par exemple, personne l'embête en ce moment. Hein. Je veux dire, de toute façon, la hype Gignac, même s'il est toujours très 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 populaire à Monterrey du côté des Tigresses, voilà, c'est beaucoup moins la hype qu'au tout début il y a 2 ans.
Elle est redescendue. C'est plus la bête de foire. C'est un joueur du championnat mexicain. Voilà.
Bah, surtout que devant, maintenant, t'as le numéro 9 de la sélection chilienne, Eduardo Vargas, et le numéro 9 de la sélection équatorienne, Enal Valencia. Donc le poids sur les épaules de Gignac a été extrêmement délesté. Donc l'Américain, on a parlé, on fait vite aussi, donc Herrera qui a remis un peu en selle cette équipe. Moi, je ne la vois pas vraiment réussir. Elle est un peu moribonde sur les 2-3 derniers matchs. Est-ce que c'est parce qu'elle se réserve? On verra. Elle aura la possibilité de jouer contre Cruz Azul, donc dans ce Clásico Joven. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, parmi les équipes qualifiées, on retrouve des équipes un peu losers qui sont finalement des bonnes surprises. Donc Cruz Azul qui a réussi à trouver une vraie identité grâce au nouveau coach espagnol Paco Gémez. Il avait coaché le Rayo Vallecano. Cruz Azul, c'est une équipe qui faisait longtemps rire. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a un verbe qui a été inventé pour Cruz Azul qui en fait signifie foirer les choses au dernier moment, ou alors de manière complètement ubuesque. Cruz Azulear. Et en soirée avec tes potes.
Je crois que c'est ce que tu allais dire. C'est au point que ça rentrait dans le vocabulaire quotidien. Tu peux Cruz Azulear parce que tu avais le truc au bout des mains, là, comme ça. T'allais le faire et puis au dernier moment, t'as capoté pour rien.
Tu peux Cruz Azulear un rendez-vous avec une copine, tu peux Cruz Azulear un examen, tu peux Cruz Azulear n'importe quelle tâche que tu es censé réaliser et qui ne se concrétise pas, soit à la dernière minute, soit d'une manière complètement qui n'était pas prévue absolument, comme perdre un classico, tu l'as dit, à cause du gardien adverse, ou alors perdre un classico en ayant mené 3-0 à la mi-temps.
Oui, tout à fait.
Ce qui s'est passé alors,
et du coup, est-ce que elle va Cruz Azulear ou elle va pas Cruz Azulear?
Cruz Azul peut largement sortir l'Américain. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne dis pas qu'ils sont favoris. L'Américain reste favori. Mais ce ne serait pas quelque chose d'irrationnel de voir Cruz Azul gagner. Cruz Azul ne fait plus rire, en tout cas plus rire dans le mauvais sens du terme. Cruz Azul a une identité de jeu. Cruz Azul a une petite équipe là, de 4-5, 4 Chiliens là, qui se baladent et qui sont presque tout le temps titulaires. Devant, donc il y a surtout Felipe Mora hein, qui est un attaquant assez complet devant. Il y a Silva, il y a Mena. Silva, enfin, ils sont tous presque internationaux, hein, il me semble, à part Mena, mais en tout cas, il y a Silva qui est milieu de terrain dans cette équipe. Moi, je dirais que le point faible, c'est peut-être la défense, hein, une défense un peu vieillissante, qui n'a pas vraiment de niveau Liga. C'est surtout son attaque et son milieu de terrain avec Peñalba, Rafael Baca, l'Équatorien. Donc, c'est vraiment une équipe qui peut sortir l'América, sachant que c'est une équipe qui joue, c'est agréable de voir Cruz Azul jouer.
C'est pour ça que Paco Jiménez avait été contracté. J'ai du mal parfois.
Ouais, c'est ça. Il a été recruté pour ça. Ça a été un peu compliqué au début. Là, sur ce tournoi-là, donc Cruz Azul finit sixième. Donc ils ont quand même dû attendre la fin, hein, parce que c'était serré. Mais c'est amplement mérité. Ça fait du bien de voir cette équipe. Déjà pour le peuple Azul, parce que c'est quand même un peuple qui souffre, il faut le dire. Et voilà pour un des quatre géants. Et donc intéressant de voir. Moi, je pense que le Cruz Azul América, c'est peut-être le match le plus intéressant parce que c'est un classico. C'est le plus indécis et c'est celui où je pense celui où le moins bien classé peut le plus battre le mieux classé.
Il peut se passer des choses et tu l'as parlé d'ailleurs. Du coup, tu l'as dit en parlant des Tigres et du rival des Rayados Monterrey pour l'Atlas et pour León. Tout peut se passer, mais ça va quand même être assez compliqué. Et du coup, j'aimerais que tu termines par ce match un petit peu plus équilibré entre Toluca et les Monarcas de Morelia. Qui on voit passer?
Pourquoi le championnat mexicain est intéressant déjà? Parce que la plupart des équipes jouent. Je pense que sur les 18 équipes, je pense que tu as 15 équipes qui viennent pour attaquer. Et l'une des équipes qui ne vient pas forcément sur le terrain pour faire le jeu, c'est Toluca. Et pourtant, le club est toujours bien placé. Alors, c'est un club qui marque quand même des buts. Hein. C'est pas non plus le Toulouse FC. Hein. Ils en sont à 24 buts, par exemple. C'est complètement
acceptable. La pique du supporter violet. Je précise que tu es supporter du TFC.
Ouais, enfin, on va dire que je suis, pour un autre taf, je suis régulièrement le TEF. C'est pour ça que la pique est là. C'est une tristesse de suivre le TFC. Toluca, c'est quand même un club qui met beaucoup de buts malgré un jeu plutôt ennuyant. Ils sont bons sur coup de pied arrêté. Ils ont un bon buteur, Uribe, le Colombien. Et Morelia en face, qui en fait, à un moment donné, va pouvoir se dire que Morelia, c'est plus une surprise. Ça fait deux tournois que Morelia se qualifie. Donc oui, Morelia a très peu de chances de gagner le tournoi. Hein.
Morelia qui a une attaque menée par le sémillant péruvien Raúl Ruiz Díaz.
C'est un super joueur. Hein.
Pied pour la Coupe du Monde, super joueur Raúl Ruiz Díaz.
Je vois mal Raúl Ruiz Díaz rester à Morelia. Il y a plusieurs clubs qui lui faisaient les yeux doux. Il a fini meilleur buteur, meilleur joueur du dernier tournoi l'an dernier, là, lorsque Morelia termine 8e. Donc c'est quand même impressionnant de voir qu'un joueur finalement pas classé extrêmement, extrêmement haut reçoit ce genre de récompense. Après, il n'y a pas que Raúl Ruiz Díaz. Hein. On peut également parler de Valdés, par exemple, qui est devant et qui l'aide pas mal. C'est vraiment une équipe intéressante. Moi, je les vois sortir Toluca. Après, bon, c'est quand même très, très équilibré. Ça ne gagnera probablement pas le tournoi, mais Morelia, c'est là. Morelia, ce n'est plus du tout inquiété par la descente. C'est un fait. Depuis les deux derniers tournois qu'ils ont réalisés, là, Morelia peut regarder devant, voir ce qui va se passer avec Raúl Ruiz Díaz. C'est une équipe, c'est placé dans une ville un peu reculée. Morelia, c'est plutôt une grande ville, mais une grande ville de province.
Il y a plutôt une bonne province qui est marquée par les narcos.
Ouais, je n'y suis pas allé récemment. C'est pourtant dommage parce que c'est une très belle ville.
Le siège de la familia, les narcos de Michoacán.
Voilà, le cartel de Michoacán, là, c'est
un des cartels les plus violents.
Et pourtant, les gens continuent de se rendre au stade. C'est plutôt il y a plutôt une bonne ambiance. Voilà, c'est pas l'Argentine non plus, hein, mais c'est une bonne ambiance où tu prends du plaisir à aller au stade. Voilà. Et il y a du monde. Il y a du monde qui se déplace. De toute façon, le Mexique, c'est un pays où on se déplace énormément. Hein. Au niveau mondial, c'est juste derrière les cadors européens. c'est devant la Ligue 1, c'est devant la Serie A. Voilà. Donc, au niveau des affluences, le Mexique, là-dessus, il n'y a pas
très
de
très grosse affluence. Alors, ça, voilà. Je vous recommande, évidemment, chers auditeurs et chers auditeurs, de regarder les matchs du championnat mexicain de la Liga MX. Streamez-moi ça au diable, les canaux officiels. C'est pas bien ce que je dis. Piratez-moi ça. Mais à regarder absolument ce championnat. Il est absolument passionnant. Ça joue très bien. Merci beaucoup, Diego. C'était la première fois qu'on parlait de la Liga MX. Ça fait longtemps que j'avais envie d'en parler parce que c'est un championnat que j'adore, mais c'était pas tout le temps disponible parce que t'étais au Mexique justement et au niveau de l'horaire, c'était un peu compliqué. Je rappelle.
Ouais, même retour en France, hein, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'était un plaisir également.
Et je rappelle du coup rapidement les dates de ces quarts de finale. Ça aura lieu. Bah, en fait, voilà, il y en a déjà un premier ce soir. Alors, on enregistre. Le Toluca Monarcas de Morelia ce 22 novembre qui sera suivi le 23 de León Tigres et de Cruz Azul América.
En fait, c'est le même soir, hein, León Tigres. C'est le même soir.
Oui, c'est ça, le 23 et le 24, l'Atlas Rayados de Monterrey. Le retour aura lieu la semaine prochaine.
C'est ce soir, ouais. León Tigres, c'est à 22h, 22h36, je pense, heure mexicaine et qui doit être la même heure que.
Oui, c'est moi qui trouve. Tu as raison. C'est le 23. J'avais pas regardé l'heure. D'accord. Qui est du coup le 23 pour moi au Brésil. D'accord. Ok. Voilà. Bon. Enfin, on va terminer. On se la coule en douce du côté des Caraïbes colombiennes parce que j'ai envie. Parce que voilà. Parce qu'aujourd'hui, il fait pas beau chez moi. Alors j'ai envie d'avoir un peu d'eau turquoise, tout ça. On va aller du côté de Cartagena pour faire comme promis. Même si je sais que t'habites à Bogota, mais moi j'ai envie d'aller à Cartagena. Et puis c'est tout. Pour faire comme promis le point sur la Liga de la Liga Águila. On dit Liga aussi là-bas, Pedro, ou pas?
Non. On dit Liga Águila. Et là,
oui, on dirait la phase de play-off, est-ce qu'elle s'appelle la Liguilla?
Non, ça s'appelle Cuadrangulares.
Ah voilà, c'est le Cuadrangular comme au Costa Rica, cher à Grégory Chaboche. Alors, je vais rappeler un petit peu les qualifiés à ces quarts de finale. Nous avons les Millonarios de Bogota, la Equidad, qui est un petit peu la surprise, Santa Fe.
Ouais, pas tant que ça, mais...
Expliquer, Santa Fe, que voilà, qui n'est pas une surprise, c'est un gros club. Jaguares de Córdoba, qui était une surprise, mais une surprise qui confirme, si je le comprends bien, par rapport aux antécédents. L'Atlético Nacional qu'on ne présente plus. Tolima, qui est là régulièrement, qui se refait un petit peu, mais qui est là régulièrement. Les Juniors de Barranquilla, qui est mené par un attaquant de talent qu'on ne présente plus non plus. C'est Carlos Bacca, qui est revenu chez lui, parce que c'est un gars...
Carlos Bacca, il est pas revenu à Junior, c'est Théo Gutiérrez qui est...
Oh pardon, excusez-moi, non, c'est Théo Gutiérrez, excusez-moi, le caractériel attaquant ancien du River et du Sporting, je les confonds toujours, autant pour moi. Je voulais dire Théo Gutiérrez, oui, qui est donc revenu à Junior de Barranquilla, et c'est un enfant du pays, c'est ce que je voulais dire,
oui.
Par contre.
Voilà, oui, et que voilà. Bacca aussi...
Et Bacca aussi, il est de Barranquilla?
Ouais, Bacca est même... alors, il est de... Bah, pas Barranquilla même, mais il est d'une ville à côté qui s'appelle Puerto Colombia.
D'accord. Barranquilla qui est aussi la ville de Shakira, mais ça, c'est hors foot. Et donc, Barranquilla qui sera opposé à l'América de Cali, qui était déjà là lors des derniers Cuadrangulares, qui est un club qui est passé par une décennie très très compliquée et qui se refait bien la cerise. Donc je répète, c'est quart de finale, Millonarios de Bogota contre la Equidad, Santa Fe contre Jaguares de Córdoba, Atlético Nacional de Medellín contre Tolima et Junior Barranquilla contre América de Cali. Pedro, est-ce qu'il y a, avant de vraiment parler des quarts de finale, quels sont les grands perdants de cette Clausura? Par exemple, je ne vois pas le DIM.
Ouais, alors le DIM, effectivement, ils sont pas passés. Ils ont changé trois fois d'entraîneur sur la phase retour, donc c'était compliqué. Le DIM, ils sont ratés sur ce semestre-là. Mais voilà, alors pour apporter une précision, si tu m'autorises, ici, ce qui était plus intéressant dans cette fin de saison de ce qui s'appelle TOS contre TOS, c'était ce qui se passait en bas plutôt que ce qui se passait en haut, parce qu'on savait que déjà les quatre têtes de série étaient qualifiées depuis bien longtemps. Alors Millonario, ça a mis un peu plus de temps, mais bon, ça n'a pas vraiment tremblé. C'était ce qui se passait par en bas, et notamment, alors parmi les quatre quarts de finaliste, les huit quarts de finalistes, pardon, que tu as cités, il y en avait deux qui étaient concernés directement par le maintien, y compris lors de la dernière journée. C'était l'América et Jaguares. Puisque comme ce que disait Diego, en Mexique, en Colombie, c'est la même chose. C'est sur les trois dernières saisons pour calculer le maintien avec un promedio. Et donc l'América en tant que promu, et même donc Jaguares qui a fait deux saisons, je parle des années, on va prendre les années civiles, deux années 2015-2016, vraiment très moyen. Donc voilà, Jaguares, ils ont fait quart de finale là au premier semestre de l'année, et là ils vont faire encore quart de finale, mais ils étaient concernés par la descente. Donc voilà, c'était vraiment ça, ce qu'il fallait suivre dans la dernière journée, le maintien, avec notamment un gros match América-Bucaramanga entre les deux équipes qui étaient concernées, et c'était chaud.
Bucaramanga qui était qualifié au dernier quoi dans l'Angular, si je me souviens bien.
Exactement, l'América fait demi-finale au premier semestre, et ils perdent contre le Deportivo Cali, et donc voilà, c'est un peu scandaleux, hein, je vous laisse vous faire une opinion par vous-même, mais voilà, t'as ce système-là qui faisait que l'América et Jaguares étaient concernés, donc on n'était pas inquiet par Jaguares. Hein. Jaguares, ils ont c'est une des équipes les plus séduisantes vraiment par rapport à ce qu'ils ont en magasin. Ils ont un entraîneur Bodert, Bodert, qui est un arrière-grand-père allemand, hein, qui est arrivé à Choco. Et donc il a fait un bon boulot quand il est passé à Cartagena. Il les avait emmenés dans la RA. Donc voilà, Jaguares, on n'était pas inquiet. Et l'América, l'América a fait ce qu'il fallait pour se sauver, quoi. C'était là le plus important, en gagnant 1-0 face à Buca sur un penalty de Cristian Martinez Borja, le buteur maison.
Et du coup, il n'y a pas le DIM, il n'y a pas Once Caldas non plus, mais ça, c'est pas un vrai gros.
C'est un gros intermittent. Là, ils ont fait une année entière qui était assez dégueulasse, hein, vraiment assez dégueulasse. Et voilà, d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de Once Caldas, puisqu'ils étaient concernés pour le maintien lors de la dernière journée, puisqu'ils recevaient Cortuluá, qui est l'équipe qui va descendre avec Tigres. Et dans un stade vide, Once Caldas a gagné 2-1 sur un but à la 95e minute qu'a envoyé Cortuluá dans la baie, comme on dit ici. Et voilà. D'ailleurs, petite question, toi Simon qui suis le Brésilien, le championnat brésilien, beaucoup mieux que moi, j'ai été surpris de voir arriver Cortuluá. À Cortuluá, ils ont pris trois Brésiliens, ce qui explique à mon avis en partie leur descente. Donc trois Brésiliens qui s'appellent Wanderson Dante, Vinicius de Paiva et Lucas Sotero, que tu ne vas pas connaître, je pense.
C'est ce que j'allais dire, d'où est-ce qu'ils viennent ces Zozos?
Alors ils viennent de trois clubs que je ne comprenais pas, que je ne connaissais pas, pardon. Pelotas,
Brésil de Pelotas, non, dans le Rio Grande do Sul. Donc c'est le même état que Grêmio qui va jouer la Copa Libertadores, par exemple, ou l'International. Okay. Ouais.
Wanderson Dante qui ressemble à Dante de Nice, mais qui joue d'ailleurs défenseur central comme lui, mais qui est pas aussi fort évidemment. Vinicius de la Paiva, il vient dans le club qui s'appelle Volta Redonda, je ne connaissais pas non plus.
Alors Volta Redonda, c'est un club de l'état de Rio. Alors si Brasil de Pelotas, c'est un club de deuxième division, pour le coup deuxième division nationale, pour le coup Volta Redonda, là on est en troisième division, hein. Là tu commences à descendre un bon.
Okay. Et Anápolis.
Je vais choper le maillot dans pas longtemps d'ailleurs.
Et Anápolis.
Et alors oui, figure-toi que je regarde en même temps sur internet, en même temps que tu me l'as cité, et j'ai vu donc Anápolis. Alors là, pour le coup, Anápolis, c'est une équipe de l'état de Goiás qui joue en quatrième division, que je ne connaissais absolument pas, Anápolis. Je peux te dire à propos de ce fameux Lucas Sotero qu'avant il a aussi joué à Sampaio Corrêa, qui est un club de San Luis, un club du Nord, l'État du Maranhão, en Série B. Il a joué dans l'équipe du Paraná Club. C'est un joueur de seconde division. Et là, ouais, il arrive en troisième. C'est pas, t'as pas du premier choix.
Crack. Ouais. Donc voilà. Et faut savoir que Cortuloa, franchement, ils avaient moyen de faire mieux que ça, parce qu'ils ont quand même vendu l'année dernière. Cortuloa fait demi-finale en 2016 dans la Liga Águila Uno, donc qui est la première partie de saison. Ils font demi-finale et ils vendent notamment. Et ton ami Miguel Borja, ils le vendent à l'Atlético Nacional. Donc, ils ont quand même empoché pas mal d'argent. Ils avaient aussi d'autres joueurs, hein, Pablo Mina, qui est gardien à Cali, au Deportivo Cali. Ils ont revendu aussi Mayer Candelo là-bas. Enfin, il est en fin de contrat, je pense. Mais bref, ils ont quand même eu des entrées d'argent assez, assez conséquentes, en tout cas suffisantes pour prendre mieux que ces trois joueurs-là. Et alors, je veux pas leur jeter la pierre spécifiquement à ces trois-là, mais voilà, ils font partie d'un ensemble de décisions négatives qui étaient prises par Cortuloa ce semestre, hein, à commencer par le choix de l'entraîneur. Ils ont pris Néstor Otero, qui est un entraîneur qui a fait un travaille très bien avec l'Atlético Huila, qui est monté dans la première division, mais là voilà, après à Rio Negro il a rien proposé, là à Cortuloa il a rien proposé non plus. Enfin, c'est pas illogique cette descente de Cortuloa. Donc, c'est un ensemble de choix douteux depuis la demi-finale de l'année dernière qui fait que ça marche pas et qui fait que ça arrive dans la baie.
Dans la baie de série B, hein, pas comme la baie des cochons ou la baie d'Arcachon.
Pas la baïa.
Pas la baïa, tout à fait. Alors qu'on peut entendre derrière toi qu'un toutou, un gentil toutou est rentré sur le terrain. On l'entend aboyer derrière toi, mais au fond, on ne pourra pas y faire grand chose. Et ce que j'allais dire, voilà, c'est une spécialité d'Amérique latine. Alors on va le prendre comme ça, hein, le fameux coup du chien qui rentre sur le terrain. Donc, ma foi, coucou à toi, petit toutou. Et passons à ces quarts de finale.
Alors, si tu peux, j'ai surtout parlé de ce qui s'est passé hors terrain dans la semaine, parce qu'il s'est passé depuis samedi. Il s'est passé notamment un événement vraiment samedi et un autre qui commence à prendre de l'ampleur et
alors explique-nous.
Plus polémique et qui pourra faire des étincelles. Alors le premier, c'est tout simplement, on parlait de Cortuloa, il y a un joueur à Cortuloa qui s'appelle Carlos Ibargüen, qui a lâché juste après le match face à Once Caldas, qui a lâché un peu une... Alors, on va pas vraiment dire une bombe parce que ça fait partie de la culture locale, mais qu'a lâché après le match que, alors, en gros, on sait Caldas avait été dégueulasse toute l'année, je cite, hein. Et aujourd'hui, ils ont joué à la vie à la mort pour 700 millions de pesos. Donc, il a accusé de manière directe.
Ah bah là, oui, là c'est clair et net, il les accuse de corruption là.
Exactement, il a accusé de corruption et les trois autres équipes qui était concerné par le maintien. Donc, évidemment, un de ces Caldas, le club n'a vraiment pas apprécié et a envoyé un communiqué, a demandé une grosse sanction pour le joueur. Donc, à voir, c'est en cours. Le joueur s'est exprimé aujourd'hui, apparemment, donc j'ai pas encore eu le temps. Il s'est exprimé là, il y a quelques minutes. Sur cette histoire, il a été obligé, hein, le club, à mon avis, l'a bien forcé. Donc voilà, c'est une affaire dont on a beaucoup parlé. Depuis samedi, c'est moyen, surtout que c'est pas forcément vrai déjà, et ensuite Cortuloa n'avait qu'à s'en prendre à lui-même.
Oui, ça fait surtout très rageux.
Et donc la deuxième qui fait un peu plus de bruit, c'est tout simplement une grève, hein, à l'initiative de l'Atlético Nacional, qui a annoncé ça il y a plusieurs semaines et qui est en train de prendre, ramener avec lui les autres clubs et quarts de finalistes. C'est que tout simplement, ils menacent de ne pas jouer après le 10 décembre. Il faut savoir que, donc là, on entre en quart de finale ce week-end, quart de finale aller. Quart de finale après, il y a évidemment quart de finale retour, demi-finale aller, demi-finale retour, finale aller, finale retour. Ce qui pourrait faire terminer le championnat un peu tard au goût des joueurs qui menacent de faire tout simplement grève si la Liga, s'il y a des matchs après le 10 décembre. Donc il y a négociation et les clubs.
Quel est le problème en fait d'ailleurs du coup?
Bah les joueurs demandent tout simplement plus de vacances parce que.
D'accord.
Si je me souviens bien, l'année dernière, la finale avait été autour du 20 décembre, je crois. Et là, ça pourrait être la même chose autour de mi-décembre, voire fin décembre, juste avant Noël. Et donc, les joueurs ne sont pas contents et demandent plus de vacances. Et notamment, ils sont en négociation pour demander la tête de Monsieur Pep Domo, qui est ni plus ni moins le président de la D-Mayor, qui est l'équivalent pour les auditeurs et auditrices français-françaises. La D-Mayor, c'est l'équivalent de la LFP, la Ligue de football professionnelle. Voilà. Donc ça, on a fait un gros bruit cette semaine. Il y a des négociations et notamment, normalement, aujourd'hui, il y a une réunion prévue entre les différentes entités, les présidents, présidents et joueurs des clubs concernés, les personnes compétentes sur ces dossiers-là et la télévision pour essayer de trouver une solution à tout ça. Mais il se pourrait qu'on finisse, on se retrouve le 10 décembre, et ben sans match. Et donc, c'est affaire à suivre, affaire à suivre.
Donc ouais, donc des quarts de finale qui partent sur une base un peu houleuse. Alors pour parler un petit peu plus sur le terrain de ces quarts de finale, quels sont les gros matchs à suivre? Quels sont les favoris un petit peu là qui est bien parti,
Le
qui est mal
favori,
barré?
je vais te dire pour moi, le favori, c'est Junior. Junior qui a gagné la Copa Colombia, qui s'appelle la Copa Águila. Alors, Águila, c'est une marque de bière. Donc, on va dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Et donc, voilà, Junior a gagné la coupe. Donc, ils ont gagné leur place en Libertadores. Là, Junior va faire demain la demi-finale aller de la Sudamericana contre le Flamengo des Marcelins. Donc vraiment grand favori. Ils ont terminé premier de la phase régulière. Alors même si à la fin, que ce soit Junior, l'Atlético Nacional, Santa Fe, les trois premiers, ça a vraiment traîné. Ils ont joué à deux à l'heure. Donc voilà, pour moi, Junior favori, vraiment. Et après, bah, Santa Fe, c'est chiant à jouer toujours. Et National, National, ils sont évidemment favoris, mais ils sont pas terribles. Donc à voir comment ça se goupille. Mais vraiment, pour moi, Junior favori et gros match contre l'América en quart de finale. Ça va être vraiment un gros match, belle ambiance, deux belles ambiances. Ça va envoyer.
Donc on vous conseille, tout à fait, c'est celui que j'identifiais aussi, la preuve que je commence à bien me faire cette Liga Águila, ce gros match entre les Junior Barranquilla et l'América de Cali. Pour rappeler un petit peu les dates de ces quarts de finale,
Alors,
sont
ah vas-y,
décalées
ah
donc, par
vas-y.
rapport à la Liga MX. Les premiers quarts de finale auront lieu la semaine prochaine, c'est-à-dire enfin non, ce week-end, pardon, ce week-end,
Le week-end, ouais,
samedi
c'est terminé sur
25,
3 jours.
ouais, samedi 25, dimanche 26 et lundi 27, et le
Exactement.
retour aura lieu une semaine,
Ouais, les dates
la
sont
semaine
pas
après,
encore
le vendredi
définies.
après. C'est pas encore
Les dates,
défini.
non, pas encore définies pour les retours, mais l'aller, oui, c'est ça. Samedi, la Equidad de Millonarios. Dimanche, Tolima, pardon, toujours très très chiant à jouer Tolima. C'est pour ça qu'à Ibagué, ils sont vraiment durs à bouger. Ils sont invaincus même à domicile, si je ne m'abuse. Donc, tu as Tolima, Atlético Nacional et Jaguares Santa Fe dimanche et lundi, América Junior.
Super mon Pedro, bah c'est top et on va suivre donc cette Liga Águila et on se retrouvera dans quelques semaines pour faire un point sur la finale, hein, de savoir qui se sera hissé jusque-là. Eh bien, bah, je te remercie mon Pedro.
Bah, merci à toi, Simon.
C'est toujours un plaisir. Je remercie aussi Diego, donc c'était le premier passage. Il a dû donc partir pour cause informatique, si j'ai bien tout compris en cours de route, son ordinateur. Là, un petit peu lâché. Je vous remercie tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. Je rappelle, comme en début de podcast, que nous sommes présents sur iTunes, sur Mixcloud, sur YouTube, sur TuneIn également, que tous nos contenus, articles, en plus des podcasts, sont sur le site Lucarne Opposé. On vous invite à nous suivre, à suivre nos comptes perso et ainsi que le compte Lucarne Opposé, bien entendu, sur Twitter et Facebook. Enfin, nos comptes perso sur Twitter, me suivez pas personnellement sur Facebook, ça n'a aucun intérêt. mais sur Twitter, ma foi, oui. Enfin, si je suis digne d'intérêt, on va le dire modestement. En tout cas, vous avez le droit de me suivre. Bon, voilà, si c'est tout.
Pour tout savoir sur Palmeiras, faut te suivre, évidemment.
Oui. C'est un peu plus éclectique ce que je pose, ce que je poste, c'est vrai. Palmeiras, j'en poste un petit peu, etc. Vous pouvez poser des questions, parce que c'est mon club, mais c'est vrai que... Et comme voilà, comme tu le dis, hein, poser des questions. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions sur Twitter, intervenir, voilà, nous faire des suggestions. On est toujours preneurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez et le lieu à laquelle vous écoutez. Voilà, vous connaissez à connaître la rengaine. Et je vous dis ciao à tous.